Alors après tous ces Rossini, il faut bien que le répertoire évolue. Et une des grandes rencontres dans votre carrière et dans votre vie, ce sera celle de René Jacobs. Un extrait d'Artaxerxès de Johann Adolf Hasse. Vous étiez ici, Casino, en compagnie de l'Académie für Alte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacobs. Et c'est un extrait de cet album consacré aux airs de Farinelli. Alors justement, René Jacobs sera le premier coup de fil de notre déjeuner, puisqu'il y a une douzaine d'années, vous allez auditionner pour lui, c'était à Berlin déjà. Ouais. C'était pour un opéra de Hasse, si je crois bien, Moribon Sulimano.
Oui, alors c'était pour Sulimano et dans l'audition, j'ai été déjà étonné de sa technique parce que le rôle qu'elle chantait dans Sulimano, c'est un rôle pour castrat, pour castrat soprano et l'air le plus difficile à des coloratures, des triolets. Ultra rapide et là elle m'a étonné qu'elle pouvait faire ça sans aucun problème et donc en travaillant avec elle j'ai vraiment découvert bien d'autres qualités encore d'abord une des qualités humaines, c'est quelqu'un de très cordial et de très très bien dans un ensemble. Elle a toujours de l'humour parce qu'elle ne se prend pas trop au sérieux. Et vocalement, donc, tout est, chez elle est basé sur une vraie technique bel canto. Donc, la voix est construite. On parle en anglais de voice building, construite comme une maison. Et donc elle a uni les deux registres graves et aigus d'une façon admirable. Et elle en tire des effets parce que les deux registres chez elle ont des couleurs bien contrastantes et elle sait utiliser ça dans l'interprétation de l'air.
Et alors, elle a dit deux choses très belles sur vous, René Jacobs, à l'époque, oui. avec ce travail sur Hasse. C'est la première chose, c'est de travailler avec vous et le concerto Köln, c'est de passer de la télévision en noir et blanc à la télévision en couleur. Et ensuite, que c'était comme travailler avec un grand couturier parce que les ornements, les choses comme ça, vous lui écrivez sur mesure pour elle.
Oui, ça c'est comme on faisait à l'époque, évidemment. J'ai tout de suite compris qu'elle avait une voix idéale pour ce rôle de castrat, justement. Et donc, comme ça, l'idée est venue aussi de faire cet enregistrement, ce disque avec des airs de Farinelli, où j'ai en effet écrit des ornements pour sa voix, dont je savais qu'elle savait vraiment les faire. Et dans ma connaissance, c'est encore le meilleur enregistrement d'air de Farinelli, parce que les sopranistes qu'il y a maintenant ont beaucoup moins de couleurs qu'une Vivi Cagené, et ça faisait quand même partie de l'art des castrats aussi. Et oui, moi aussi, j'aime beaucoup le fait qu'elle a un don pour les langues. Donc elle parle parfaitement anglais, bien sûr, français et italien. Et ça, on entend dans les récitatifs, par exemple. Quand je fais un opéra comme Sulimano et autres, je travaille beaucoup sur les récitatifs et avec bien le chanteur, j'ai beaucoup de travail à faire, mais avec elle, ça va très facilement parce que cette déclamation de l'instatif est là par nature. C'est très beau.
Un extrait du Rinaldo de Handel, vous en dites le rôle titre, Vivica Génon, le Freiburger Baroque Orchestra sous la direction de René Jacobs. C'est une production d'ailleurs qu'on avait pu applaudir à l'Opéra de Montpellier, qu'il faudrait reprendre d'ailleurs, ou peut-être une autre production, mais en tout cas l'ouvrage. Alors quand René Jacobs faisait l'éloge de votre talent, aussi bien dans les vocalises que dans les récitatifs, bah, c'est le fruit aussi du travail avec Claudia Pinsa.
Ouais, c'était incroyable de travailler avec lui. Et j'ai tellement des souvenirs. Alors, c'est-à-dire, l'audition que j'ai fait pour lui, c'était la deuxième fois que j'étais prêt. Ils m'ont donné le contrat directement. C'est la deuxième et la dernière fois, je pense.
Ah non, bon.
Non, c'était fantastique. Mais j'avais peur parce que je ne connaissais pas du tout la musique baroque. Alors, j'avais préparé mes airs de Rossini. Et puis, en travaillant avec lui, il m'a toujours poussé de faire plus de couleurs, plus de... Et d'apprendre de faire un vrai trill, trémulo. Hein. Et alors, quand j'ai fait l'enregistrement de Farinelli, j'avais travaillé pendant un mois avec ma prof du chant pour apprendre à faire le real trill, le vrai trill. Et alors... C'était drôle parce qu'on a travaillé tellement et puis quand on était à l'enregistrement, il y avait le premier violon qui m'a demandé « Est-ce que vous ferez encore un trill ?» Non, et il m'a fait apprendre tellement des choses. Et puis avec Solimano, la première opéra de Hasse qu'on a fait ensemble, c'est vrai qu'il a dit que l'air avait des choses extrêmement rapides, mais c'est-à-dire extrêmement rapides parce qu'il a pris des tempos incroyables. Et un jour, il est venu me voir dans ma loge, il m'a dit « Mais écoute, ta dernière air du premier acte, j'étais en train de penser, je pense que c'est trop rapide qu'on fait maintenant et ça devrait être plus martial et plus... » Alors j'ai dit « Ok, on essaye cette fois ». Alors je suis sortie sur scène pour faire l'air. Il est parti avec l'orchestre encore plus rapide que jamais. Et alors, je pense que l'air, normalement, ça durait 5 minutes. C'était 3 minutes 24, quelque chose comme ça ce jour-là. Mais c'était toujours amusant de travailler avec lui parce que j'adore... la défi, hein, comme ça. Et je me souviendrai... Pour toujours, le premier jour qu'on a travaillé ensemble, on a fait 3 heures de coaching ensemble à l'Opéra de Berlin. Et on a fait tous les 8 airs de Selim, de Solimano. Et j'avais l'impression qu'on avait l'énergie qui était partie ensemble. C'était incroyable. C'était une expérience
Oui, car
unique.
Il est lui aussi infatigable, René Jacobs.
Oui, il est incroyable. Mais bon, moi, mon mari me dit toujours que je suis diesel. Oh. J'ai besoin d'un peu de temps pour me réchauffer et puis je pars et j'arrête jamais.
Pas très élégant, ça, Mazzino. Alors justement, on écoutait Solimano, ces airs de Farinelli, donc tous ces rôles travestis qui sont une grande partie de votre carrière. Et c'est justement l'objet de la chronique de l'ami Nicolas Lafitte, surtout dans un moment où en France, on parle du mariage pour tous.
Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Chère Vivica, belle et sensuelle Vivica, devrais-je dire, lorsque l'on regarde les rôles que vous avez chantés et que vous chantez encore, finalement, on constate que sur scène, vous êtes plus souvent un homme qu'une femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie, alors qu'en France, nous sommes en plein débat à propos du mariage pour tous, que des barjots, sans doute un peu frigides, manifestent violemment à l'encontre de ce droit à l'égalité. Eh bien, dans l'univers des bisounours opératiques, là, en revanche, on peut se travestir et se marier sans problème. Et c'est ainsi qu'on retrouve sur Internet, dans une vidéo datant de 1980 au Festival d'Aix-en-Provence, la trace d'une Montserrat Caballé parée d'une grande robe toute blanche, genre princesse de Walt Disney, prête à se marier avec une Marilyn Horne en tenue de chevalier, bouclier en main et casque bien vissé sur la tête. Eh bien oui, l'opéra est bien plus en avance que notre société, surtout quand on sait qu'elle chante une œuvre de Rossini, Sémiramis, donnée la première fois en 1823. À propos du travestissement, à la lecture de plusieurs de vos interviews et de celles de vos concerts mezzo ou contralto, on se rend compte que ça doit être une sacrée satisfaction que de pouvoir pendant quelques heures jouer un jeune premier romantique ou un chevalier couillu.
Moi si j'étais un homme, je serais capitaine.
Eh oui, Diantel se voit bien capitaine, mais il faut être Vivica Geno pour avoir un peu plus d'une vingtaine de rôles d'hommes à son actif. Et il faut dire que le répertoire est large. Aujourd'hui, les mezzo-sopranos reprennent les partitions des castrats, pour qui les compositeurs baroques ont abondamment composé. Mais même après la disparition de ces derniers, la tradition des rôles travestis s'est perpétuée. Par exemple, le Roméo de Bellini, dans les Capulet et les Montaigu, est écrit pour une mezzo-soprano.
Roméo, même s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette perfection qui m'est chère, quel que soit son titre. Ah, Roméo, ah, Roméo, ah, Roméo.
Vous voyez un peu le rêve pour une femme que d'incarner le rôle du beau Roméo. Si on vous en croit, Vivica, il serait pas mal d'ailleurs que les hommes expérimentent eux aussi les personnages féminins. Remarquez, peu l'avoueront, mais il y en a bien qui ne seraient pas contre se transformer en Juliette pour un temps.
Si au lieu d'un garçon, j'étais une jolie fille, comme j'aurais gentille, comme j'aurais l'air fripon. Au lieu de montrer les cheveux de ma noble poitrine, je mettrais de la soie très fine sur mes gros seins frileux.
Quand un vieux plus sérieusement, à vous lire et à vous entendre, se travestir demande un travail d'observation considérable. Une démarche plus raide, les hanches ne doivent pas bouger, les épaules restent basses. Mais il est aussi intéressant de voir que ce genre de rôle, quand on ne connaît que très peu l'opéra, déstabilise, interroge nos certitudes. Serait-il pour certains choquant de voir deux femmes, même si l'une est travestie sous les traits d'un homme, s'aimer ou s'embrasser? Tout comme d'autres sont mal à l'aise face à la voix d'un contre-ténor. Mais l'opéra se fiche bien des quand dira-t-on. Alors allons tous à l'opéra, dans un monde où tout est possible, où tout le monde peut s'aimer librement sans se poser la moindre question, enfin ça dépend des librettistes, où une femme peut interpréter un homme et réciproquement, c'est ce que l'on appelle une convention, un pacte conclu entre le public et la scène, et ben vivement que ça arrive à la ville.
Tiens, un air lent pour une fois, Vivi Casino, dans notre programmation musicale. Ombra fedel, anch'io, un extrait d'Idaspe de Riccardo Broschi. Toujours l'Académie für Alte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacobs. Magnifique air.
Ouais, c'est incroyable, ouais. Ouais. Ouais.
Alors, parlez-moi un peu de Claudia Pinza, parce qu'on l'a évoqué à propos de René Jacobs, ce travail avec elle.
Alors, oui, ça fait 20 ans que j'ai étudié avec elle, et... Oui, il a parlé de la voix construite et c'est très intéressant ça. C'est vrai que ben, on travaille la technique comme bel canto, et comme elle a appris de son père et sa mère aussi, qui était pianiste et aussi coach de la voix. Et oui, c'est ça qui m'a peut-être étonnée, qu'on pouvait chanter le baroque avec la technique bel canto. Parce que j'avais aucune envie de chanter baroque au début, parce que je connaissais que l'école anglaise de baroque, qui est plus claire, avec la voix sans vibrato, et ça ne m'a pas beaucoup plu. Et quand j'ai commencé avec René, c'est vrai qu'il m'a ouvert une porte, parce que j'ai vu qu'on pouvait utiliser plein des couleurs, et aussi plus des couleurs que dans le bel canto même. Pour moi, c'est le baroque, c'est le vrai bel canto, parce que la voix est tellement exposée, et avec l'orchestre qui font des petites exclamations, l'orchestre qui dit « Oh, c'est dommage que c'est passé comme ça », ou oh, « Est-ce que c'est vrai ?» Et c'est génial de chanter, de se trouver dans ces conversations avec l'orchestre sur scène. Oui, Claudia, je suis rentrée maintenant de Pittsburgh. Elle habite à Pittsburgh pendant l'année. Et puis, d'été, elle vient en Italie. Et avec elle, j'ai trouvé un rapport d'apprenti. Parce que normalement, comme toutes les choses dans la vie, on a très peu de temps. Et on va pour un leçon de une heure, une fois par mois, quelque chose comme ça. Et quand je vais étudier avec elle, je reste chez elle. Elle est vraiment devenue comme ma deuxième mère. On étude pendant deux heures et demie chaque jour. Et une heure de vocalise chaque jour, c'est très bien pour la voix, pour sentir, pour unifier la voix grave, la voix aiguë, comme a dit René. Et il y a une autre chose que René m'a dit, a dit, que les récitatifs, comme je fais les récitatifs, c'est quelque chose, je suis née avec ça, mais c'est pas vrai ça. C'est la Claudia qui adore toujours les récitatifs. Alors on travaille pendant des heures les récitatifs. Elle m'a dit que quand elle a appris Mimi de Bohème, son coach l'a fait travailler pendant un mois sur une phrase. Et c'est vrai qu'on peut trouver des couleurs, des intentions, des émotions avec les mots. Et c'est dans les récitatifs qu'il a l'action, le mouvement de drame. Et c'est très important et j'adore maintenant les récitatifs, utiliser les mots. Et quand j'entends les airs qu'on a enregistrés avec René de Farinelli, j'ai presque envie de les réenregistrer avec les nouvelles choses que j'ai apprises pendant des années pour utiliser mieux les mots.
Bah, il sera prêt à le faire, et moi j'en suis sûr.
Et c'est toujours ce qu'il voulait, il m'a toujours poussé ça, de prononcer, d'utiliser les consonnes. Et non, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec les mots, avec la voix.